Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, on peut donc être un rêveur juvénile avec une vieille âme, d'une douceur sans naïveté, d'une profondeur qui n'empêche pas l'humour, d'une grande culture portée par l'élégance des sentiments et incarner depuis 40 ans l'énergie incandescente du rock en France. On se connaît depuis si longtemps, Jean-Louis Aubert et nous, qu'on est même pas surpris qu'il mette en musique des joyaux de phrases comme celle de Bouddha « Ne cherche pas refuge ailleurs, sois une île pour toi-même ». Cette phrase, justement, a inspiré son titre au nouvel album « Refuge », avec lequel Jean-Louis Aubert démarre le 27 février à Montpellier une tournée magique de tous les zéniths de France qui s'achèvera les 23 et 24 avril à Paris. Pourquoi magique ? Eh bien parce que Jean-Louis Aubert sera à la fois en solo et très entouré de ses avatars en hologramme. On va tout vous révéler. Bonjour et bienvenue Jean-Louis.
Europe 1.
J'adore, ça démarre par un éclat de rire. Jean-Louis Aubert. J'ai appris que Mark Zuckerberg, le cofondateur de Facebook, avait suivi plusieurs de vos concerts improvisés de chez vous en solo et retransmis bien sûr sur Facebook. À l'une de ses assistantes, qui est française, il a déclaré « Ah, ce mec a tout compris ». Il a compris exactement comment un artiste, qui est pourtant une star, doit utiliser Facebook. Ça vous a surpris d'apprendre que Mark Zuckerberg fait partie des 60 ou 80 000 personnes qui vous écoutent comme ça, assis chanter en live de chez vous ?
Effectivement, il y a un côté des réseaux sociaux, surtout Facebook, qui ressemble à une petite maison, en tout cas pour moi. C'est un endroit où on peut se présenter un peu tel que l'on est et se faire plaisir et partager... tel un cyber troubadour, des moments privilégiés et gratuits. Et moi, c'était mon rêve, à savoir si j'ai pas déjà existé au Moyen-Âge. Mais j'aurais bien aimé être troubadour quand j'ai commencé à faire de l'autostop avec ma guitare. La guitare servait à avoir le gîte et le couvert gratuit. Et quelquefois, un petit bisou en plus. Et ça me plaît beaucoup. Et effectivement, je trouve que de faire des petits lives sur Facebook, il vaut mieux ne pas les faire dans un studio de photos très maquillé, très mise en scène.
Alors, j'ignore si Mark Zuckerberg parle bien le français, ça serait mieux quand même, parce que vous affirmez, Jean-Louis Aubert, c'est la musique qui fait le succès d'une chanson, mais ce sont les paroles qui l'inscrivent dans le temps.
Avec les paroles, il y a une amitié qui se met en route. Enfin, disons que la musique rappelle des souvenirs, par exemple les chansons de téléphone, quand je croise des gens dans la rue, mais ils leur rappellent en général leur première déconnade. Quoi. C'est rare de ne pas rencontrer quelqu'un qui a fait la première connerie sans le dire à ses parents sur une chanson de téléphone, par exemple. C'est un peu le sens du rock aussi.
Oui. Hein,
c'est ça, voilà. La liberté adolescente et quelquefois post-adolescente. Mais c'est vrai que... dans le temps, en retrouvant la musique, il peut s'instaurer une conversation avec une chanson. Et comme avec un copain qu'on retrouve, à qui on n'a pas besoin de dire bonjour et de dire ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, tellement ça paraît être hier. Et personnellement, avec pas mal de chansons, j'ai cette conversation. Je suis toujours d'accord avec cette chanson, mais j'y entends quelque chose d'autre avec ce que j'ai vécu et ce que je sais maintenant.
Il y a la force des textes, de la musique, et puis il y a le magnétisme et la sincérité de ceux qui les incarnent, les chansons. Par exemple, Jean-Louis Aubert, vous ne jouez pas parfaitement, vous ne chantez pas parfaitement,
oh,
mais cette fragilité qui est totalement à l'opposé de la performance vocale, pour cueillir les notes, cette fragilité, elle a toujours donné comme un supplément d'âme, pour vraiment habiter les mots de la manière la plus vraie. Vous avez toujours su que cette faille, en fait, c'était votre force ?
Non, je ne l'ai pas su, je l'ai découvert.
Quand
j'ai découvert déjà quand j'étais jeune, j'ai dit à mes parents bon bah puisque cette musique n'existe pas ici, je vais partir au pays de Woodstock. J'avais vu ce film au cinéma et donc je me suis dit je vais aller en Californie, là-bas ils vont bien aimer. Et effectivement, le voyage a été plein d'aventures parce que je ne savais pas dire non et je me suis retrouvé en Californie à faire la manche dans la rue, à jouer de la guitare, et tous les gens chantaient mieux que moi. Donc il ne me donnait pas l'argent, il chantait quelques fois, il m'invitait à dîner. Et je me suis aperçu qu'en général, eux parlaient que d'une chose dans leur vie, soit leur voiture, leur waterbed, ou leur niveau de vie, ou les fantômes qu'il y avait dans leur maison. Et moi, je pouvais parler de tout. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Je suis français. Alors j'ai commencé avec mon copain à chanter Plaisir d'amour dans la rue.
Et là, ça a très bien marché.
Les gens nous donnaient de l'argent.
Extraordinaire pour le début d'une carrière de rockeur. Plaisir d'amour.
Ouais. Et alors, c'est. Déjà, je pense deux choses. Je pense qu'il faut traverser ses rêves pour voir ce qui se passe, s'ils correspondent bien à ce qu'on attendait. En général, ils ne correspondent pas. Mais quand on revient, on sait beaucoup plus de choses, et sur les autres, et sur soi-même. Et quand je suis rentré en France, tous mes copains à Paris enviaient le voyage que j'avais fait.
Bon, 5 ans se sont écoulés depuis la sortie de votre dernier album, composé sur des poèmes de Houellebecq. Il s'est passé tellement de choses au cours de ces 5 années.
Ouais.
À commencer par la parenthèse enchantée de la tournée miraculeuse des Insus, Téléphone, Réformé sans Corinne, voilà, de septembre 2015 à l'apothéose au Stade de France le 16 septembre 2017. Et après cette folle aventure avec les Insus, eh bien vous avez eu envie, alors pour votre nouvel album, solo, baptisé Refuge, vous avez eu envie de revenir à des salles à dimension humaine, comme des théâtres, et puis dans des villes parfois oubliées par les artistes. Cette envie, il paraît qu'elle est née d'une soirée avec votre ami Manu Payet,
ouais,
que vous étiez allé voir au Théâtre de l'Œuvre. Faut nous raconter.
Au Théâtre de l'Œuvre, et en fait j'ai habité 6 ans au coin de la rue du Théâtre de l'Œuvre, et je n'avais jamais vu ce théâtre qui est dans une impasse. Et en fait, le soir, on était avec François-Xavier Demaison qui gère ce théâtre, Manu Payet qui venait de faire son stand-up. Et justement, peut-être 2 jours avant, j'avais fait cette chanson « Ne cherche pas refuge ailleurs ». J'ai commencé à jouer sur le piano, ça sonnait merveilleusement. Et justement, je sentais « Ne cherche pas refuge ailleurs, sois une île pour toi-même ». Et tous ses amis autour, on était un peu sous évidemment, on commençait à reprendre la chanson. J'ai vu des petites larmes aux yeux de Manu Payet.
Et vous avez eu envie de proximité?
Oui,
après
voilà.
Le Stade de France.
Voilà, je suis venu y jouer carrément sur la sono du théâtre, qui était des petits baffes qui ressemblent aux petits baffes qu'on a dans les églises quelquefois. Je sais pas, ça n'avait pas un son terrible et j'ai adoré ça. Et du coup, on s'est dit, tiens, si on repartait dans des petits théâtres. Alors là, ça, je le sais très bien, c'est qu'il y a des joyaux dans toute la France, des petits théâtres, des opéras vraiment magnifiques. Et puis. Voilà, et donc je continuais à préparer mon album, mais la tournée ne voulait pas s'arrêter. Et puis j'avais ce rêve dans la tête que j'avais lu dans un livre de science-fiction. J'avais vu qu'un artiste dans le futur jouait avec des avatars, et j'avais ça en tête, et je cherchais, je demandais au monde entier, en Allemagne, aux États-Unis, mais qui sait manier les hologrammes et pourrait les manier avec quelqu'un de vivant, parce que, bon, avec les gens décédés, on y arrive assez bien.
Trouver des ingénieurs en informatique, c'est ça, qui ont planché pour connecter.
Alors,
en fait, le concept, c'est ça, connecter vos guitares, votre piano et votre batterie à des caméras que vous pouvez déclencher vous-même pour faire jouer autour de vous vos propres hologrammes sur scène.
Avec mes petits orteils, voilà, c'est ça. Donc, je fais une espèce de mandala musicaux et voilà. Et un peu comme dans ce voyage aux États-Unis, c'est en frappant aux portes du monde entier que je me suis aperçu que la personne qui pouvait réaliser ça...
Elle était française.
Elle était en bas de ma rue.
Et bien justement, on va l'évoquer tout de suite, Jean-Louis Aubert, parce que l'effet est absolument prodigieux. C'est ce que vont découvrir tous ceux qui vous aiment grâce à cette tournée qui démarre le 27 février aux Zéniths de Montpellier. Il
voilà,
n'y a pas que
ça,
bien sûr.
C'est une tournée acoustique. C'est une manière de...
Ouais.
Enfin, moi, je me fais vraiment plaisir et c'est bien le sens de ma vie. C'est que ce que j'aime, j'ai envie de le partager depuis le début.
C'est ce qu'on fait justement grâce à cette émission. On fait une pause très courte. On trouve tout de suite Jean-Louis Aubert.
Vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie jusqu'à 16h sur Europe 1. La conversation entre Isabelle Morizet et son invité se poursuit. Aujourd'hui, c'est un ex-membre du groupe Téléphone qui se raconte.
Il est l'âme du rock français. Je reçois Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert, dans la chanson qui a donné son titre au nouvel album Refuge, vous chantez « Ne cherche pas refuge ailleurs, sois une île pour toi-même ». C'est une phrase de Bouddha. Je voudrais savoir si ça fait longtemps qu'elle tourne dans votre tête.
Ah, ça fait pas mal de temps. Et d'ailleurs, les Insus sont reformés autour d'un copain, François, qui était redevenu notre manager pour cette tournée, mais qui était atteint d'un cancer assez important. Et on est allé à l'hôpital et on lui a dit, écoute, si tu t'en sors, on fait au moins un concert dans un club pour toi. On regardera s'il y a du plaisir, on verra ce qui se passe. Alors, démerde-toi.
Donc, bien sûr, il s'en est sorti.
Et il s'en est sorti. Et quand il était à la maison, il y avait cette phrase et on se la répétait souvent.
C'est magnifique, sois une île pour toi-même.
Oui, des moments comme ça qui sont très interrogeants. On comprend bien que le bonheur n'est pas à l'extérieur, vraiment. Il est souvent à un endroit à l'intérieur de nous, au moins la joie. Après, vous pouvez toujours penser qu'avec cette fille, avec cette voiture, avec cet argent, avec ce que me disait toujours mon père, ça embouteille vraiment l'esprit et ça gêne, ça apporte du malheur. Mais après, dans ma vie d'ailleurs, même quand on se dit bon, on va faire le Stade de France et après, vraiment, si j'arrive à sauter cette haie, je serai heureux. Bon, ça dure 2 heures. On est reparti et c'est. Tout le monde le sait, c'est toujours pareil, rien. Il vaut mieux transporter de la joie à l'intérieur.
Mais vous dites, avec l'âge, je suis de plus en plus doué pour la bienveillance.
Oui, genre je crois que... Ou peut-être avant je l'étais, mais je ne le savais pas.
Vous l'étiez.
Mais d'ailleurs, c'est dit dans cette chanson Refuge, le monde est quand même un miroir. Et en fait, suivant l'humeur que vous avez, vous allez choper dans le bouquet des sensations et des émotions qui vous êtes offertes à chaque seconde dans votre vie. La sélection va se faire par votre état intérieur. Et quand je vous vois, vous, par exemple, avec votre pêche et votre appétit, ben vous dégagez une joie et une capacité de recevoir. Et c'est ça. Et la bienveillance, finalement, et ben, c'est un monde miroir. Hein. Le sourire, c'est du bonheur qui vous pend au nez. Et franchement... un petit merci au passage clouté quand la voiture s'arrête et qu'elle vous laisse passer, ça peut égayer la journée de la personne. Et l'inverse, s'il est très tendu, l'inverse peut vraiment l'énerver. Et c'est des petits détails comme ça. Et la vie est tissée de petits détails, on ne s'en aperçoit pas.
Alors cet album, Jean-Louis Aubert, vous le faites donc vivre avec, j'en reviens à ça parce que ça me fascine, une tournée étonnante qui met en scène de vraies prouesses technologiques. On a évoqué tout à l'heure justement vos propres avatars sous forme d'hologramme. En fait, vous régnez sur un orchestre virtuel où tout le monde a la tête de Jean-Louis Aubert.
Ouais, enfin, alors croyez-moi, je ne règne pas. Et bon, la musique a ce talent de vous faire descendre dans le présent, en tout cas quand vous êtes... Et donc ça demande d'être très attentif. Je suis plus pour l'attention que la concentration, parce que l'attention reste ouverte à des choses inattendues. Et des fois j'ai des choses inattendues et des choses que j'aime bien. Et puis c'est comme, vous savez, ces mandalas que les gens en Inde font quelquefois en sable, ils font des œuvres magnifiques. Et puis tout d'un coup...
Un coup de vent qui balaye tout.
Et voilà, ça disparaît. Et donc, on n'est pas dans...
Vous aimez ce côté éphémère?
Ah, j'adore ça. J'adore ça parce que...
Ça donne de la préciosité aux choses.
Oui, et puis on s'attache beaucoup plus à l'instant présent. Donc le fait qu'il y ait des choses enregistrées dans le présent, ça ne détruit pas cet instant présent. Maintenant, ne vous l'aurez pas, j'ai énormément d'envie après ce rêve de partir en groupe, donc c'est ce que je vais faire cet été. Et je pense qu'à la rentrée, vu que les zéniths sont complets, qu'on va repartir et on va peut-être faire la tournée all autour, c'est-à-dire tout autour, et les hologrammes et le groupe.
Ça c'est formidable. Alors Jean-Louis Aubert, vous qui êtes auteur de tubes de légende, comme... Voilà, c'est fini. Tant à nouveau, juste une illusion, alter ego. Je rêvais d'un autre monde. Ça, c'est vraiment toi. Le jour s'est levé. Les plages, j'adore. Avec des phrases comme « Sur toutes les plages, il y a des vieux qui regardent les mômes tendre la main au bateau. Ouais. » Bon, et puis aujourd'hui, le titre, bien sûr. Eh bien, vous avez la coquetterie de dire que vous ne savez toujours pas comment on écrit une chanson.
Ah non, je...
Zazie fait ça sur commande. Vous êtes plutôt comme Alain Souchon, un contemplatif qui a besoin de rêver longtemps, très longtemps.
Oui, Souchon dit, c'est écrire une chanson, une Souchon. C'est regarder la poignée de la porte pendant 2 semaines. Alors, moi, c'est pas ça. J'aime bien être à la terrasse du café, regarder les gens passer, faire quelques pas avec eux. Et c'est vrai que vous vivez 1000 vies en une heure. Il y a une deuxième personne après après un jaillissement d'une idée, il y a une deuxième personne qui arrive 15 jours plus tard, qui est toujours moi, et qui dit « c'est pas mal ce qu'il a voulu faire, je suis obligé de me détacher, parce qu'au moment où les choses jaillissent, j'ai pas vraiment d'opinion sur elles, ou c'est jamais assez bien, mais en général, je crois que c'est un truc dans ma vie, quoi. » Donc voilà, et quand je regarde dans mes carnets, je trouve... c'est assez merveilleux, je suis d'accord avec tout ce que la personne dit, et je trouve qu'il y a plein de bonnes idées, donc c'est comme si je piquais toutes les idées à quelqu'un d'autre. Qui est... Et ça, c'est dans le temps que ça se déploie, et pour les musiques, c'est pareil, mon téléphone portable est bourré de petites idées musicales, des fois on entend BFM dans le fond, et quand je vois des choses tristes à la télé, ça fait faire des choses quelquefois jolies au piano.
Alors, vous consignez plein de phrases comme ça ou d'idées sur vos carnets, dans votre portable. Quelle est la dernière phrase qui vous a cueilli et qui peut-être pourrait être l'ADN d'un nouveau titre ?
Je sais que un mot que j'ai noté il n'y a pas longtemps et que j'ai commencé à utiliser dans les interviews, c'est que je pratiquais le débutantisme. Quand on me demande quelle est ma philosophie. J'ai par exemple... quelqu'un qui avait fait un lapsus sur une radio et qui disait... et cette nuit, petit chagrin en mer du Nord. Et ça m'a mis les larmes aux yeux. Et ça, je pourrais vous faire une chanson avec ça. Il voulait dire petit crachin.
Voilà. Mais c'est tellement mieux
petit
dit ainsi.
Petit chagrin en mer du Nord. Voilà, là, vous pouvez raconter un état d'âme, une rupture. Et ce soir, petit chagrin en mer du Nord, je vous donne une idée de chanson. Je trouve ça merveilleux. Mais voilà, c'est des choses comme ça. Et après, quelquefois, quand les émotions sont très fortes, il m'est arrivé d'écrire des chansons sans m'en apercevoir. Comme voilà, c'est fini, sans m'en apercevoir. Après, j'ouvre une page et je vois cette chose écrite. C'est incroyable.
Elle est tellement forte,
c'est
celle-ci.
Donné,
mais
c'est
voilà,
donné.
C'est pas fini. Parce qu'on va se retrouver dans une poignée de secondes avec Jean-Louis Aubert, avec qui, cet après-midi, on rêve, on se dit des choses, les yeux dans les yeux. On chemine, c'est bien. Alors à tout de suite.
15h24, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Sur Europe 1, on retrouve Isabelle Morizet et donc le sourire de Jean-Louis Aubert pour parler de son parcours et de son actu.
Le sourire est toujours aussi juvénile et l'énergie incandescente. Je reçois Jean-Louis Aubert qui va faire vibrer tous les zéniths de France du 27 février au 23 avril avec son nouvel album Refuge. Et puis, non, c'est pas une fin parce qu'il y aura une autre tournée plus grande encore. On va aller toujours à l'extérieur de la périphérie immédiatement imaginée. Bon alors, cher Jean-Louis, les fils de hauts fonctionnaires, sous-préfets et chevaliers de la Légion d'honneur deviennent rarement rockeurs. Que s'est-il passé ?
Je ne sais pas, je crois que Joe Strummer des Clash était fils d'ambassadeur.
Au contraire, alors ?
Moi, mon papa était sous-préfet au champ, quoi. Vraiment, quand on regarde notre époque et qu'on n'arrête pas de gueuler, quand je vois la vie de mon père, bon, il était fils unique, il a été en pension parce qu'il voulait être avocat ou qu'on voulait qu'il fasse des études d'avocat, donc ça n'avait pas l'air marrant pour lui. Puis à 25 ans, la guerre. Prisonnier tout de suite, je ne crois pas qu'ils ont eu le temps de tirer un coup de feu sur la ligne Maginot. 5 ans prisonnier en Pologne, mais en fait ce qu'ils voulaient faire...
Donc une jeunesse confisquée.
C'est jouer de la guitare sûrement, faire des dessins, il adorait dessiner. D'ailleurs, quand il est devenu, quand il s'est mis à la retraite, il n'arrêtait pas de peindre, d'aller au cours de peinture. Il adorait la philosophie grecque, donc... Moi, j'étais abreuvé de tout ça, mais évidemment, ce qu'il ne voulait surtout pas, c'est que je fasse de la musique. Hein. Alors, surtout pas.
Parce que
Parce qu'il n'y a pas de métier, ce métier n'existe pas.
Il n'y a pas de débouché, c'est
voilà,
ça
y a pas de
Mais
débouché.
Il paraît d'ailleurs que quand vous avez décidé de vous lancer dans le rock, vous avez entendu votre mère déclarer à votre père « Ah non, ce n'est pas possible, tu n'as aucune autorité, tu ne peux pas laisser faire
oui,
ça ».
Oui, mais ça s'est fini. Je me souviens presque m'être battu avec mon père. Et... Voilà, mais chose curieuse, il avait une guitare et il l'a accrochée dans ma chambre.
Il l'a accrochée dans votre chambre,
ouais,
sa guitare. C'était un message.
Certainement. Vous savez, les enfants le savent bien, mais les parents devraient le savoir aussi. C'est-à-dire que vous essayez d'apprendre quelque chose à vos enfants, mais comme les petits toutous, les enfants, ils vous regardent même quand vous ne leur parlez pas. Et quand ils voient que vous faites l'inverse, quand je voyais mon père... s'enfermer dans son bureau à la sous-préfecture après le déjeuner de midi et jouer. Et j'entendais des petits accords de guitare pendant une heure, essayer de faire des chansons de Brassens. Bon, il connaissait trois accords, mais je me suis dit, voilà. Puis après, j'ai découvert, je savais que dans son camp de prisonniers, et donc là, on est dans quelque chose, à mon avis, de très, très rock, tel que je l'ai entendu sans le savoir. C'est-à-dire qu'il faisait très froid l'hiver en Pologne. Et pour le jour de l'an, ils ont décidé de coudre des costumes et ils connaissaient des pièces et des poèmes par cœur. Et ils ont fait un spectacle. Ils ont fait un spectacle dans le camp de prisonniers. Et c'est devenu les chouchous du camp. Parce que ce spectacle a été lu par les autres comme un signe de résistance et de fierté. Mmh. Et de faire de quelque chose de léger dans une atmosphère aussi lourde. Et c'est là que j'ai pensé quand j'ai joué au Bataclan, j'ai pensé à ça aussi beaucoup. Je me suis dit, oui, l'atmosphère est lourde.
Cet hiver,
dans cette salle, il se passe quelque chose et beaucoup de gens ont du mal à passer. Mais peut-être...
C'était presque une mission d'y aller.
Oui, je l'ai pris comme une mission, j'ai l'impression. Puis j'ai eu comme un signe dans la rue. Je voyais les petites lettres à l'époque qui dansent comme un bal. Et je les voyais. Tout d'un coup, je me suis dit, mais vous dansez tristement. Et je me suis raconté une histoire. Elle m'a dit, mais on t'appelle, Jean-Louis, viens nous faire... je ne sais pas. Et c'est vrai que c'est une résistance douce. Et la musique a souvent su faire ça.
Alors... Je déroule le fil, Jean-Louis. Vous avez été un enfant et un ado solitaire. Vous dites d'ailleurs vous être beaucoup ennuyé, ce qui est un terreau formidable pour l'imaginaire. Et après votre bac, en 74, vous avez donc annoncé à vos parents que vous partiez avec votre ami d'enfance, Olive, faire le routard en autostop avec juste une guitare pour traverser tous les États-Unis en chantant et bien sûr en faisant la manche. Donc ils sont tombés dans les pommes, vos parents, c'est ça?
Ah oui, oui. Bah, évidemment, tout le monde voudrait la sécurité. Le bonheur pour ses enfants.
Mais oui, par exemple, dans les dîners en ville, les amis de votre père disaient « Et alors bon, on entendait « Moi, mon fils aîné fait HEC, il est à Polytechnique et tout. » Et Jean-Louis, il fait la manche avec une guitare.
Mais tu n'as aucune autorité, Yves. Mais alors, la grande fierté de mon père, c'était « Eh bien, alors, Xavier, qu'est-ce qu'il devient après Léna ?» Bah là, ça va mal, il a divorcé. Les trucs. Bah il est dans l'administration, mais il n'a pas l'air très heureux. Mais par contre, si on pouvait avoir des tickets pour le concert de ton fils.
Ça, c'est merveilleux.
Et alors là, c'était la revanche.
Bah, voilà.
Et du coup, mon père s'est énormément intéressé à ce que j'écrivais. Il avait son avis et sans très bien comprendre. Il disait, mais il y a trop de tambours dans ta musique. On n'entend pas assez les paroles.
Tambour, disait-il, pour parler de la rythmique. Formidable. Alors, je reprends le fil. Il y a le voyage donc aux États-Unis.
J'ai beaucoup appris dans
vous
ce
êtes,
voyage.
Voilà. Vous êtes... Vous êtes parti en fait sur les traces de Kerouac pour la grande aventure.
Oui,
arrivé à New York, vous avez trouvé refuge dans le Bronx. Et puis quelques jours plus tard, vous êtes installé à la sortie du pont de Brooklyn avec une pancarte sur laquelle, avec Olive, vous aviez écrit « Ouest ».
On est parti plein nord.
Plein nord. Parce que celui qui vous a pris en stop
allait donc vers... deux homosexuels en décapotable. On avait l'air de beaucoup leur plaire. Alors je ne sais pas si... Parce que nous, on parlait vraiment très très peu. Mais enfin, en tout cas, ils nous ont emporté plein nord avec... des grands sourires et c'était assez curieux. Je me souviens, dans des toilettes, j'ai rencontré deux gars et une fille un petit peu plus hippie dans le style qui nous ont pris dans leur bagnole.
Ouais.
Et j'aurais dit où vous allez, et ils nous ont dit on va fumer un joint sur les chutes du Niagara à l'aube. Et j'ai dit,
était très précis.
Oui, oui, c'est ouvert au public. Non, mais on va sauter les barbelés. D'accord. Et donc, et je me revois les pieds ballants sur les chutes du Niagara, poursuivis par des gardes.
Extraordinaire.
Voilà, c'était comme ça.
Et ça a été comme ça pendant 6 mois, en fait.
Oui, c'est ça.
Aventure sur aventure. Et vous êtes rentré donc en France en sachant que vous n'étiez.
C'était dangereuse, quelquefois.
Oui, dangereuse.
Enfin, ça arrivait souvent qu'on soit obligé de partir parce que et il arrivait que
la nuit en cachette.
Franchement, le livre de Kerouac, après, je l'ai trouvé un petit peu bourgeois parce que nous, on se retrouvait courant dans un chemin avec un Iroquois avec une hache qui nous poursuivait. Donc c'était, on était proche, vous voyez, de films.
Bon, dites donc, il est temps d'écrire le bouquin d'après celui de Kerouac, Jean-Louis Aubert.
Oui, c'est lui qui nous a emmenés sur ce chemin, mais voilà, le monde avait changé. Puis on était très tête brûlée. On était prêt à tout pour vivre des aventures et surtout Olive. Donc on représentait un seul être. Moi j'étais à l'arrière, je protégeais un peu et lui disait oui à tout devant. C'était l'hydre de Lerne, enfin un être à deux têtes.
Bon, vraiment, voilà, c'est un miraculé que j'en sois aujourd'hui. Allez, on continue d'agiter les souvenirs en compagnie cet après-midi de Jean-Louis Aubert. À tout de suite.
Il s'apprête à nous offrir une tournée unique en son genre avec des hologrammes. Jean-Louis Aubert se confie au micro d'Isabelle Morizet cet après-midi. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, c'est jusqu'à 16h sur Europe 1.
Il a donné son âme au rock français. Je reçois Jean-Louis Aubert qui part en tournée avec l'album Refuge. 22 dates de concert dans tous les Zéniths de France et les 23 et 24 avril, eh bien au Zénith de Paris. Alors Jean-Louis Aubert, un jour, assis au bord d'une falaise avec Jacques Higelin, vous avez entendu Higelin vous confier, tu vois, on est des guetteurs, car nous les artistes, on a le temps de laisser notre esprit errer. Mais vous, vous êtes un guetteur, un rêveur ou un contemplatif?
je suis assez contemplatif quand j'en ai le temps. Alors on a plusieurs périodes, hein. Il y a des périodes d'observation puis des périodes d'action. Hein. Alors, comme disait Keith Richards, quand même les idées sont tout autour de nous, ce qu'il faut c'est savoir les recevoir.
Ouais,
ça m'arrive quelquefois, par exemple vous êtes en train de mixer ou d'enregistrer un album, le téléphone sonne, alors il y a deux attitudes, c'est « oh merde, le téléphone sonne » ou « elle est pas mal cette note ». Et si on l'utilisait, et ça voilà. M'est arrivé d'utiliser l'autre fois, dans cet album Refuge, il y avait un merle, et j'avais l'impression qu'il chantait quand on ouvrait la porte, qu'il chantait dans la tonalité des chansons, et pour un instrument, j'ai reproduit la mélodie qu'il faisait. On peut être contemplatif, on peut être méditatif pour essayer d'absorber ces bruits qui vous dérangent, par exemple, Plâtre et Ciment,
oui,
qui est un album. Voilà, c'est ça, je disais, mais je ne peux pas faire de musique, il y a des travaux tout le temps sur la au-dessus, et tout d'un coup, j'écoute le bruit des travaux, mais je dis... Mais il est génial le rythme que ça fait. Et donc, Jacques Attali a écrit un très beau bouquin, ce qui s'appelle Bruit, où on voit bien ces évolutions. La musique est née souvent dans le travail. J'imagine bien l'homme de Cro-Magnon en train de le soir d'écraser du grain. Et puis ça fait des sons un peu comme des bruits de travaux.
Et voilà, et ça et devient des rythmiques.
Et on commence à chanter ensemble. Ou la marche. On marche ensemble et on est fatigué, on commence à écouter nos pas, les synchroniser, et puis ça fait des marches.
Formidable, merci pour ce cours magistral. Et on note que ça serait bien de plonger dans la lecture du bouquin de Jacques Attali, Bruit.
Oui, voilà. Magnifique livre.
Alors, Jean-Louis Aubert, peu de gens savent que, de retour de votre voyage initiatique aux États-Unis, vous avez vaguement tenté l'université de musicologie de Vincennes.
Oui, enfin, j'y étais déjà avant de partir.
Mais pour faire un écran de fumée, pendant que...
Mais c'était très important parce que j'ai quand même vu tout ce que je ne voulais pas faire là-bas.
Ah, d'accord, très bien, très bien. Et donc, vous étiez à l'université de musicologie de Vincennes pendant que vous louiez une cave dans le 12e arrondissement pour faire hurler votre guitare électrique. Et cette cave, vous la louiez au père de David Guetta.
Ouais,
David Guetta qui avait une dizaine d'années quand vous jouiez chez lui. Est-ce que David Guetta a assisté au début de Téléphone?
Alors, Téléphone était déjà formé à cette époque-là et c'était un moment curieux, mais sur le coup, ça ne nous a pas paru curieux. Donc, je ne connaissais pas David Guetta, que j'ai bien connu après, même avant qu'il soit DJ ou même compositeur de musique électro. Son père était très actif dans cette rue et il y avait un café aussi dont il avait pris la programmation au coin de la rue et Taxi Girl jouait mais n'avait pas encore enregistré de disque et donc après nos répétitions on allait les voir. Donc on était dans cette cave et Coluche tournait sur la terrasse d'en face.
Extraordinaire.
Un film rigolo là comme il faisait à l'époque. Et donc la rue était occupée par ce monde et on se rencontrait, on se parlait et c'était C'était sûrement là où j'ai bien lié d'amitié avec Coluche, chez qui j'ai passé de nombreuses soirées par la suite.
Alors, les vrais débuts de Téléphone, eh ben, ce fut le concert organisé devant 600 personnes au Centre Américain de Paris, par Richard Kolinka, batteur, et vous, Jean-Louis Aubert. Pour l'occasion, vous aviez fait appel à un pote, Louis Bertignac, qui a imposé sa petite amie à qui il avait appris la basse, Corinne. Le concert, avec beaucoup de reprises des Stones,
on se voyait tous
à
beaucoup à l'époque, parce que c'était des communautés, puis on avait de nombreux groupes intermédiaires qu'on jouait aussi dans des rallyes ou des mariages.
Ah oui.
Les gens, ils aimaient bien avoir des jeunes aux cheveux longs qui leur jouent du Rolling Stone, du Santana, du Led Zeppelin.
Ça faisait un shoot d'énergie. Alors ce concert, il a été un triomphe, et justement, je disais qu'au cours de ce concert, parce que vous étiez un tout jeune groupe, donc vous avez joué certains de vos titres, mais vous avez fait beaucoup de reprises des Stones. Eh bien, au cours de l'enregistrement de l'album Crash Ton Venin en 79, vous avez rencontré, donc, au cours d'une session, Mick Jagger, qui, découvrant que le bassiste de Téléphone était une fille, vous a prévenu, paraît-il, avec un sourire macho, en disant « Attention, vous allez peut-être vous engueuler, là. Téléphone va pas vivre longtemps. Elle est vraie, cette histoire, ou pas ?»
Oui, elle est vraie. Alors,
mais Mick Jagger vous a dit ça en voyant que derrière la basse, il y avait Corinne.
Il y a Ian Stewart, le bassiste, il y a Keith Richards aussi. Non, mais déjà, c'était une autre époque, je crois que... Mais c'était un peu comme les marins. Si on voulait traverser l'Atlantique, les marins disaient surtout... Il n'y a pas de filles sur le bateau parce que dans ces moments de solitude et de voilà, il va se passer des choses avec la fille. Et c'était un peu macho. Je pense pour une femme à cette époque-là, c'était vraiment emblématique d'être avec un groupe de garçons comme ça. C'était vraiment chouette et c'était un signe d'égalité, de libération. Mais ça n'a pas dû être facile tous les jours pour Corinne.
Effectivement,
c'est resté un truc compliqué. Mais est-ce que à l'intérieur d'elle-même, il n'y a pas quelque chose de compliqué aussi? Je pense que oui, à l'intérieur de nous tous, et peut-être...
C'est la raison peut-être pour laquelle Corinne n'était pas présente à la reformation des Insus.
Peut-être entre garçons, avoir une espèce de passer l'éponge et de s'entendre et d'avoir un petit peu de bienveillance avec le temps qui passe et de dire quand même on est bien ensemble.
Téléphone a vécu 10 ans, de 76 à 86, et a aligné des tubes qui font hurler de bonheur toutes les générations. On l'a vu d'ailleurs en septembre 2017, quand ça a été une espèce d'apothéose au Stade de France avec la parenthèse enchantée des Insus, insupportables d'ailleurs. C'est vous qui avez trouvé le nom, c'est ça?
Oui, c'était au départ pour faire ce premier club, et comme il était tout petit, on pouvait pas mettre un nom. Et puis après, on a senti qu'il allait avoir des problèmes juridique. Alors, un avocat nous a dit, et pourquoi pas continuer, c'est un peu plus risqué avec ce nom. Donc, on s'est dit, pourquoi pas. D'ailleurs, personne n'a jamais fait au monde. On dit toujours que c'est la marque qui est le plus important et que le contenu n'est pas très important.
Eh bien non.
Eh bien non, on pourrait prouver le contraire. En fait, il y a quand même eu des problèmes juridiques. Et voilà, et ça c'est quand même, ce côté-là, mais comme je vous dis, c'est pas le bonheur, mais disons que Corinne a été extrêmement bien à mes yeux dédommagée, mais c'est pas ça qui rend heureux. Ce qui nous aurait tous rendus heureux, c'est un sourire et des bras ouverts, mais ça n'a pas été le cas.
On retrouve tout de suite Jean-Louis Aubert.
Jean-Louis Aubert, qui est donc l'invité d'Isabelle Morizet cet après-midi. Depuis 15h, on remonte le fil des souvenirs. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. C'est sur Europe 1 jusqu'à 16h.
Il est bien plus qu'un rocker. Je reçois Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert, en septembre 2018, vous avez assisté au mariage de votre ami Michel Houellebecq, dont vous avez mis en musique 4 ans plus tôt les poèmes. Jamais auparavant, dites-vous, vous n'aviez vu Houellebecq aussi heureux, comme transfiguré. Après la cérémonie, il vous a dit « Tu vois Jean-Louis, j'ai trouvé l'amour, j'y suis arrivé. » Ça te donne pas envie de te marier, toi aussi? Alors très calmement, vous lui avez répondu non. Il paraît que Houellebecq a semblé vraiment très très déçu, presque contrarié. Si Houellebecq ose se marier, pourquoi Jean-Louis Aubert refuse?
Oui, mais c'est peut-être une longue histoire. Comme lui, il mettait toujours l'amour sur un piédestal, je disais, je comprends pas trop cette femme idéale que tu cherches. Puis après, il la rencontre et Et donc on est au mariage. Là, il me dit, alors ça te donne envie de te marier ? Et alors moi, ça me surprend et je lui dis, non, enfin surtout pas la cérémonie, la mairie du 13e, enfin, qui était très sympathique au demeurant.
Mais non
c'est la réponse, puis fuse immédiatement. Et là, tout d'un coup, on dirait que, comme si après toutes ces anecdotes où je remettais en question, qu'est-ce que tu cherches ? Pourquoi tu cherches un idéal ? Est-ce que tu étais plus... Parce qu'il y a aussi lui la dégénérescence de la chair dont il parle tout le temps dans ses livres.
Et je lui dis tout le temps. C'est très présent dans la prose de Houellebecq.
Je lui dis, est-ce que tu étais plus heureux adolescent ? Et tout ça. Il dit, moi je voulais être toi adolescent. Et il dit, tu crois que moi j'étais heureux ? J'avais aussi mal au dos et tout ça. Parce que c'était... Évidemment, il y a l'image et tout ça. Je lui dis, maintenant tu peux faire tout ce que tu veux. T'as la liberté totale, t'es dans une activité que tu adores faire. Et alors là, j'avais comme réponse sa fameuse réponse et voilà, et c'était très touchant. D'ailleurs, j'ai essayé de plutôt éclairer sa face sud, parce que il y a un côté enfantin, il y a un côté très Gainsbourg aussi dans la prise de risque, dans les sorties la nuit, dans cette manière de voir le monde.
Il y a un côté surant chez Houellebecq.
Oui, il y a un côté surant, mais aussi il y a un côté extrêmement romantique, beaucoup plus que moi, quoi. C'est un amoureux dans l'âme.
Beaucoup plus que vous.
Oui, oui, je trouve que des fois je disais, mais moi alors j'ai un cœur de pierre, parce que j'ai quelques copains comme ça qui ont rêvé des histoires d'amour comme dans des films ou dans des... Vraiment. Et ça, je ne l'ai jamais compris. Et ces gens-là, je les ai toujours vus déçus. Et malheureusement, parce que chaque histoire d'amour va être différente et elle va aussi correspondre à ce que vous êtes et pas du tout au fantasme que vous avez.
Alors, je voudrais qu'on évoque une autre forme d'amour. Jean-Louis Aubert, ce père qui est parti à l'âge de 91 ans, qu'on a évoqué tout à l'heure, après, d'ailleurs, vous avoir avoué qu'il aurait aimé faire votre métier.
Je crois que ma maman aussi, hein, finalement.
Oui, elle aussi, parce qu'on a moins parlé de la maman, mais elle aussi.
Oui, c'est ça. Puis elle est là, elle dit, pourquoi on parle toujours de papa ?
Alors, il avait, votre père pour son fils, et pour la vie, il avait un amour admirable. Peu de temps avant de mourir, alors qu'il était hospitalisé à Cannes pour un cancer du sang, votre papa a annoncé au médecin qu'il allait se rendre à un concert, vôtre.
Voilà, c'est ça.
Il était très faible, mais déterminé. Et au cours de ce concert, Jean-Louis Aubert, s'est passée vraiment la chose la plus poignante et magique à laquelle un fils, depuis la scène, puisse assister.
Oui, c'est ça. Sa chanson préférée à l'époque, c'était « Veille sur moi ». Je dis, je vais chanter cette chanson pour mon papa qui est là. Il devait être au 10e rang. Et la foule l'a pris et l'a soulevé jusqu'au premier rang.
La foule a soulevé votre père, 91 ans, et précautionneusement...
Ouais, l'a déposé au premier rang. Et donc il me regarde chanter la moitié de la chanson. Et puis, sollicité par quelques personnes autour, il se retourne et il commence à signer des autographes jusqu'à la fin du concert. Et ça, j'ai trouvé ça aussi formidable, j'ai vu.
C'est magnifique.
C'est ce jour-là, dans les loges, où il était tout essoufflé après cette expérience un petit peu sportive. Et il m'a dit, tu vois Jean-Louis, ce que tu fais, je crois que c'est ce que j'aurais aimé faire. J'avais peut-être saisi dans certains silences, dans certains non-dits, chez mes deux parents, un désir que certainement j'ai porté jusqu'ici.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, la suite est fin avec Isabelle Morizet et son invité Jean-Louis Aubert.
Jean-Louis Aubert, que fait-on de l'énergie incandescente du rocker qu'on était à 25 ans quand on en a 60 ? On la dompte, cette énergie, pour faire quelque chose de plus cérébral, avec plus de douceur ?
Eh bien, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un être en moi qui est toujours, quand je retourne vers lui, toujours au présent, et que même discussion que quand j'avais 2 ans, quoi. C'est le même truc, est-ce que je suis bien, est-ce que je... Voilà, après, l'énergie, elle vient principalement des gens, aussi de la timidité. Alors mon père, à nouveau, disait qu'il n'y a que les timides qui montent sur scène. J'en suis persuadé, alors j'ai transformé cette phrase en... plus le lance-pierre est tendu, plus la pierre va loin. C'est-à-dire que quand...
Ah, elle est très signifiante, on comprend tout de suite.
Oui, c'est ça. Vous essayez de faire pour le mieux et vous descendez dans un instant présent. Et donc, les moments de scène sont un peu des moments où vous avez très peur avant. En train de vous dire, j'ai mal ici, j'ai mal là, où je tousse. Et puis, finalement, devant les autres, le temps disparaît jusqu'au moment de tomber. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait des artistes qui rêvent de tomber sur scène.
Ouais. Mais vous le vivez comment, le silence de l'après-concert? Parce que, justement, on a évoqué cette tournée All Autour qui démarre le 27 février à Montpellier. Vous faites tous les Zéniths de France. Vous terminez par celui de Paris les 23 et 24 avril. Dans chaque ville, le public hurle son bonheur. Puis il faut rentrer à l'hôtel. Et là, soudain... même si on va dîner avec les potes, mais après cette décharge d'adrénaline et d'énergie folle,
j'adore, en fait,
il y a le silence
de la
nuit.
Ah oui, mais je ne crains pas trop le silence. Enfin, je ne crois pas. J'adore les après-concerts parce que je pense que je suis quelqu'un qui anticipe un peu. Et donc, surtout si le concert a été satisfaisant, ou bon. on s'assoit dans le fauteuil, on a l'impression d'avoir fait ce qu'on a eu à faire et on ne pense pas encore à celui de demain. Ce moment, je l'adore. Je crois qu'avec les Insus, je l'avais dit une fois dans le bus et ça avait été mal pris. Alors j'étais obligé d'expliquer parce que je regarde les autres dans les yeux et j'ai dit... Vous savez, les gars, ce que j'aime le plus dans le concert, c'est l'après-concert. Alors, il y a vexitude dans les yeux des autres.
Mince alors, vexitude, pourtant, je trouve... Mais la phrase était une déclaration, en fait.
Oui, c'est ce moment de laisser aller. Enfin, si vous voulez, j'avais rencontré Edlinger, qui était un grimpeur et qui grimpait les faces nord sans corde, et je crois qu'il en est décédé aussi, quoi. C'est des gens qui prennent beaucoup de risques. Ouais. Donc c'était quelqu'un qui faisait du free, machin. Et je dis, mais pourquoi tu grimpes comme ça? Il était un peu philosophe. Et il dit, je grimpe pour le goût de la pomme quand j'arrive en haut. Et vous voyez, ce goût-là...
Toute la vie devrait être ça.
Voilà, ce goût après l'effort, vous le savez très bien. Vous avez marché, vous avez eu soif, vous avez eu la manière dont vous allez dormir, même si c'est dans la forêt, même si vous avez froid, ça ne va pas être la même forêt que d'habitude. Ça ne va pas être la peur, ça va être... Et ça, il y a quelque chose... Il y a quelque chose que l'effort apporte. C'est aussi ce qui se passe après. La satisfaction du devoir accompli, certains diraient. Mais voilà. Et ce n'est pas pour dire que la musique, pendant qu'elle se fait, il se passe des choses merveilleuses aussi. Mais là, on est très, très attentif et... Justement, le pire, c'est quand il se passe quelque chose de pas bien et qu'on y pense. Et comme les sportifs, on part 3 points après.
Jean-Louis Aubert, hélas, le temps file. Mais ben oui. Avant qu'on ne se quitte, j'aimerais savoir si l'anecdote très surprenante que je vais raconter est vraie. Vous allez nous dire. Il y a quelques années, on vous a invité à la projection d'un documentaire sur les prisonniers des FARC et d'Al-Qaïda. Et on vous a présenté un homme qui avait été détenu 3 ans dans le désert, maintenu seul au fond d'une fosse. Et quand vous avez demandé à cet homme où il avait trouvé la force de résister à ça pendant 3 ans, il vous a répondu « Je chantais, je me forçais à chanter, j'ai même chanté à tue-tête Un autre monde, votre chanson. »
Oui, je crois, mais
c'est
je
vrai,
chantais tes chansons. Ce qui était curieux chez tous ces gens, puisqu'il y en avait plusieurs, donc c'était souvent le retour au monde qui était compliqué. Après, souvent, on leur reprochait, les gens autour d'eux leur reprochaient qu'ils s'étaient fait du souci, parce qu'eux, ils avaient pris des risques en allant dans ce coin où il ne fallait pas aller. Un peu comme là, récemment, on a été obligé de libérer des gars qui étaient partis faire un safari, et tout le monde était sur nous en disant « Vous êtes cons d'aller faire un safari là-bas » Bon, ben, ça m'a rappelé que, quand j'étais petit, une fois, on m'a enfermé dans un placard parce que j'avais mangé des chocolats, alors que ce n'était pas moi, je tiens à le préciser, qui les avait mangés, mais je n'ai jamais su qui les avait mangés. C'était une erreur judiciaire. Après avoir tapé sur la porte, je me suis dit, je vais... Donc j'étais tout petit, moins vers 3 ans. Je me suis dit, je vais rester là silencieux et ils vont m'oublier. Et du coup, ils vont le regretter. Donc c'était quand même très intelligent comme stratégie. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à chantonner dans ma tête, silencieusement, et pour que le temps passe. Et effectivement, on m'a oublié. Après, tout le monde crie dans la maison, Jean-Louis, où tu es? Et on
mais
a oublié que j'étais dans le
mais
placard.
Mais vous étiez très bien en train de chanter dans votre
surtout,
tête.
Surtout, je ne répondais pas pour les faire culpabiliser. Vous voyez que j'étais déjà un peu tordu à l'époque. Et puis, ça m'a rappelé que mon père, en faisant un spectacle, en étant prisonnier, ouais. Et tout ça, et je lui disais, papa, pourquoi tu me dis toujours que tu as été libre quand tu étais prisonnier? Il m'a dit, Jean-Louis, c'est parce que chacun sans uniforme, sans argent, dans le dénuement total, a pris la place pour laquelle il était fait. Et moi, j'étais artiste et mon rôle, c'était de faire évader les esprits. Oui. D'autres creusaient des trous, d'autres faisaient évader les âmes par des choses plus religieuses. Moi, je faisais évader les esprits. Et il m'arrive aussi, des fois, quand il y a un accident autour de moi ou quelque chose de très dangereux, de me mettre à chantonner. Mais vous voyez aussi des gens dans la rue qui se mettent à... quand ça commence à être... Vous savez, quand vous êtes sur un fil ou que la voiture va peut-être pas passer tout à fait... Donc...
Ce sera pour de bonnes raisons qu'on va tous chanter très très fort, et pas voilà, dans la tête, mais à tue-tête.
Il y a chantonner, il y a chantonner et, voilà. Et chanter à tue-tête. Mais certainement, c'est des périodes d'abandon et d'oubli, et des périodes où aussi on est tous ensemble souvent.
Voilà, tous ensemble, on le sera pour les 22 concerts donnés avec la tournée Holo, le nouvel album à pour titre Refuge. La tournée, elle démarre jeudi à Montpellier. Oui. Tous à Montpellier jeudi. Je vous embrasse fort, Jean-Louis
Aubert.
Moi aussi,
je vous embrasse très, 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 très fort.
Je prends.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Et Isabelle Morizet revient bien sûr samedi prochain, 15h sur Europe 1, avec Bruno Salomon.